Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ah, ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Cours d'honneur, saison 3, épisode 2, nous revoilà. Une émission de la bande Radio Sorbonne diffusée sur Radio Campus Paris. Bienvenue, on t'accueille dans notre amphi. Ici, pas de TD, rien que des DM, oui, n'hésite pas à nous contacter sur les RS. RSU est là pour toi qui galères à trouver ta salle, toi qui galères à trouver des potes, toi qui galères à trouver un bar, toi qui galères à trouver une meuf. On connaît tous les meilleurs plans de la rive gauche, les histoires qui se racontent au Crous, les meilleures façons de gruger le métro et toutes les terrasses encore ensoleillées pour te prélasser même à la rentrée. Ensemble, pendant une heure, LA radio étudiante de la plus vieille fac de France, sur LA première radio étudiante de la capitale. Pendant une heure, on te promet de la culture.
Ouais, vous êtes des vedettes de la télé?
Va-t'en.
Hey, je veux pas vous importuner, monsieur, dame. Mais comme je vois que vous êtes du showbiz, parce qu'en fait, j'ai une formation de danseuse, chanteuse, et ben, si vous puissiez m'avoir une petite audition, ben, ça me changerait la vie.
Bien, laissons cette bougresse.
Oh, mais, hey.
Mais il y aura aussi des rumeurs, bien sûr.
Blaze, flattez-moi.
Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne.
C'est pas une flatterie, ça. C'est vrai. Alors,
imbécile.
Qu'est-ce que vous dites?
Non, imbécile que j'ai répondu au valet du duc d'Albe. Non, mon maître n'est pas le résultat de mariage consanguin. Tu l'as pas regardé, qui me dit? Ah ben, il faut pas se fier aux apparences que j'y réponds. C'est pas parce que sa mère avait épousé le demi-frère de sa tante, qui était elle-même la cousine germaine de la sœur de son père, qui...
Du love, pour les plus chanceux.
Cessez de faire ça.
De faire quoi?
De faire ça. Mes mains sont sales.
Les miennes sont sales aussi, mais de quoi avez-vous peur?
J'ai peur.
Vous tremblez?
Mais non, je tremble pas.
Je vous plais parce que je suis un vaurien. Et qu'il n'y a pas de vaurien dans votre vie.
J'aime les hommes gentils, c'est vrai.
Je suis un gentil vaurien.
Et surtout, du style avant tout.
Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du talent, oh oui, et un grand désir de faire ses preuves. Alors, où vais-je te mettre?
Pas à Serpentard.
Pas à Serpentard, n'est-ce pas? Très bien, si tu es sûr de toi.
Tout sauf Serpentard.
Il vaut mieux... Gryffondor!
Voici nos promesses, avec une équipe bien déterre pour vous servir. On va commencer par Abel. Bonsoir, Abel.
Bonsoir, Lodine. Bonsoir à tous. Ce soir, je vous parle des bons plans pour les étudiants.
Et nous avons également Thomas. Bonsoir, Thomas.
Bonsoir, Lodine. Bonsoir, tout le monde. Ce soir, on parle de la fresque qui se trouve au-dessus de nos têtes quand on est dans l'amphi Richelieu.
Et on accueille une nouvelle recrue. Ce soir, Louane est avec nous. Bonsoir, Louane.
Bonsoir, Lodine. Bonsoir à tous. Et moi, ce soir, je vous ferai un petit top 5 des séries de la rentrée.
Super, hâte de voir ça. Et Marine est aussi sur le plateau. Bonsoir Marine.
Bonsoir, bonsoir à tous. Et bah écoutez, moi ce soir j'ai le culot de venir avec rien, puisque je n'ai rien préparé.
Mais c'est bien, on aime le culot à cours d'honneur. Et il ne faut pas oublier notre chère poétesse Mélina. Bonsoir Mélina.
Bonsoir Lodine, ce soir on reçoit le tout premier invité de notre chronique poésie, l'hémophile.
Et on a hâte de découvrir tout ça dans cette émission. Ce soir il y aura aussi Cilia qui n'est pas en plateau avec nous, mais que vous entendrez tout de même. Cette semaine, elle nous envoie sa carte postale sonore depuis sa laverie automatique. Tu es ici chez toi, alors installe-toi, prends place, le décollage est imminent. Et du haut de l'amphi, au fond des chambres de Bonne, bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Cette Cette semaine, on continue avec les conseils pour réussir son début d'année. Louane nous présente les séries à ne pas manquer cette rentrée.
Et oui, Laudine, la dernière fois, Belle vous a donné plein de beaux conseils pour réussir votre rentrée, alors je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait vous donner quelques recommandations de séries, car c'est important de prendre du temps pour glander, mais glander devant une bonne série, c'est encore mieux. Alors voici quelques séries de cette rentrée 2023. Évidemment, je vais commencer par le gros succès, l'incontournable que j'ai hésité à mentionner aujourd'hui, car si vous êtes étudiant et friand de séries Netflix, vous avez probablement déjà binge-watché la dernière saison sortie fin septembre. Je parle bien sûr de la fameuse Sex Education qui vient de faire son retour avec la saison finale d'une série assez légère qui suit les aventures d'un lycéen qui s'est improvisé sexologue depuis 4 saisons et qui nous plonge ainsi dans un écosystème lycéen avec tout ce qu'il implique, les déboires amoureux, les petits problèmes sexuels et relationnels dans des dialogues à la fois drôles et sensibles. Pour continuer dans les incontournables, en septembre également est sortie la 12e saison de American Horror Story. La série devenue culte fait son retour avec la saison Delicate. C'est une série qui ne fait pas dans l'horreur à proprement parler, malgré son nom, et qui recycle ses acteurs dans des rôles tous plus loufoques et dérangeants les uns que les autres. Entre mélange d'époque et suspense à outrance, en 12 saisons, la série a su construire un véritable univers fait de différents mondes qui s'entrechoquent parfois, vous le verrez. On poursuit avec une série française cette fois qui débute sur Canal+, 66.5, qui met en scène une avocate d'affaires dans un prestigieux cabinet parisien. Et elle voit sa vie bouleversée lorsque son mari, associé du cabinet, est accusé de viol. Elle est donc ramenée, malgré elle, dans la cité de son enfance, où elle va tenter de se reconstruire en tant qu'avocate pénaliste au tribunal de Bobigny. Et pour rester dans les nouveautés françaises, disponible sur Arte cette fois, la série Sous Contrôle est une satire politique qui met en scène une ministre des Affaires étrangères, malgré elle, chargée de dénouer une prise d'otage au Sahel. Et donc pour tous ceux qui auraient été déçus de la rentrée politique française, et vous êtes nombreux, vous trouverez du réconfort dans cette série qui met en scène des personnages maladroits, tentant de masquer leur incompétence tout en étant à la tête de postes, ma foi, importants. Dans un tout autre registre, en septembre a aussi eu lieu le lancement de Cracopolis, le co-créateur de Rick et Morty est de retour avec une nouvelle série animée complètement démente et débile, un tout nouveau cartoon déjanté qui vous emmènera dans la Grèce antique et qui suivra une famille dysfonctionnelle d'humains, de dieux et de monstres, essayant de diriger l'une des premières villes du monde tout en faisant de leur mieux pour ne pas s'entretuer au passage, rien que ça. Et je voulais finir par une petite recommandation personnelle qui ne date pas du tout de cette rentrée mais que je vous conseille grandement, c'est Fleabag, qu'on traduit littéralement sac à puce, disponible sur Amazon Prime. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre, c'est un condensé d'un humour très fin, à la fois dérisoire et lucide, de sensibilité, d'une histoire d'amour impossible et de personnages touchants, le tout dans une réalisation particulière qui garde l'empreinte de la forme originale de la pièce de théâtre, en brisant le quatrième mur tout au long de la série. Et en plus, elle est très courte puisque seulement 2 saisons, et c'est le genre de série qu'on regarde en une journée, comme ça vous pouvez vous remettre illico dans vos révisions et ne me tenir responsable d'aucun dérapage de quelconque binge-watching. Et voilà pour mon top 5 des séries de cette rentrée.
Merci Loan, maintenant j'ai plein de nouvelles idées de séries à regarder plutôt que travailler. Vous sur le plateau, des séries à conseiller, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez vu celles qui ont été proposées?
Marine?
Alors, en toute honnêteté, je n'ai vu aucune des recommandations, même si j'en ai entendu parler. Franchement, ta présentation de la dernière Fleabag m'a donné très envie, donc je vais m'y atteler très prochainement. Ça a l'air de hautement qualitatif. Et non, sinon, moi, dernièrement, j'ai enfin regardé The Morning Show.
T'as pas regardé Sex Education? Sex Education? Non, ça te dit rien? Même le nom te dit rien?
Si, je connais, mais j'ai vraiment regardé un ou deux épisodes. Je suis pas du tout une adepte de Sex Education. Mais je sais, je suis la seule dans cette team, quoi. Mais...
Et les autres, vous, Abel?
Bah, j'ai regardé Sex Education. J'ai regardé les dernières, les 4 dernières. J'ai regardé le premier épisode de la nouvelle. Enfin, je vais la finir, parce qu'en vrai, moi, j'ai bien aimé Sex Education depuis le début. Et sinon, j'ai le truc sur Arte, je l'ai vu passer sur les réseaux. Et je crois que je vais le regarder, parce qu'en vrai, les séries politiques françaises, depuis le Baron Noir, elles sont toujours bien réussies, donc je regarde.
Et toi, Mélina?
Alors moi, j'ai regardé aucune des séries que tu m'as conseillées. Du coup, ça me donne beaucoup d'idées parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de trouver de nouvelles idées. C'est vrai que j'ai tendance à rester un petit peu dans mes classiques, des Breaking Bad, des Game of Thrones. Donc ça me donne beaucoup d'idées. Donc c'est très cool.
Eh bien, super. N'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts il y a débat. Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
La rentrée est maintenant lancée, les cours ont bien commencé, mais pourtant, nombre d'étudiants n'ont toujours pas trouvé de toit à mettre au-dessus de leur tête. Qui a déjà passé une semaine, voire plus, chez un ami, un frère ou une sœur en attendant de trouver son appart ? Qui a déjà fait des pieds et des mains pour espérer voir son dossier accepté et louer une chambre de bonne 9 mètres carrés à 700 euros par mois ? Pire que ça, la crise du logement étudiant est telle que certains sont prêts à aller au camping. À quel point avez-vous galéré à trouver un appart ? Cours d'honneur vous a posé la question.
Ça a été très compliqué parce que je suis partie de... Enfin, je cherchais un logement sur Paris quand j'étais à Toulouse. Donc, clairement, dès que j'appelais, en fait, c'est limite si on m'insultait au téléphone en me disant « Bah, tu peux pas te déplacer maintenant tout de suite pour une visite, ça sert à rien que tu nous appelles. » Donc, j'ai galéré pendant 3 mois. J'étais toute seule, c'était hyper angoissant parce que ça a inquiété mes parents, ça a inquiété tout le monde. Et donc, les gens autour de moi réagissaient beaucoup par de la colère et du stress. Donc, je me sens très seule dans ce type de moment. Parce que encore une fois, les visites m'étaient même pas accessibles en fait.
Ce matin, on m'envoie un message à 9h, un mail, pour me proposer une visite à 9h30 dans le 11e, sachant que j'habite dans le 15e. Donc le timing mauvais. Donc je demande à l'agente immobilière de changer pour 10h. Et elle me dit non.
Je la laisserai pas aller au camping. Au pire, si vraiment c'est la grosse galère, elle peut tout changer.
C'est très compliqué parce que j'ai cherché pendant 2 mois. Je suis étrangère. Donc je pense que pour ma part, c'était la question des garants, que mes garants français n'étaient pas mes parents. Habituellement, j'arrivais jusqu'au stade où je faisais des visites des appartements et ensuite, mon dossier n'était pas retenu.
Combien de visites ?
Une quinzaine.
C'était un logement qui avait l'air très cool, mais clairement qui a... disons grossièrement foutu ma vie en l'air pendant 1 an. Toutes les canalisations étaient bouchées, il y avait des punaises de lit, il y avait des voisins insupportables, enfin il y avait vraiment, c'était le seul logement que j'ai pu trouver et en fait c'était un enfer et que c'était 1090 et c'était un 40 mètres carrés mais en fait c'était plus 30 mètres carrés en surface habitable.
Et vous autour de la table, vous n'avez pas trop galéré à trouver votre appart ?
Alors, personnellement, oui, parce que j'ai eu le même problème que la première personne qu'on entend, c'est-à-dire que je viens de province. Et donc, fixer des visites quand t'es pas sur place, c'est impossible. Je m'y suis mise début juillet, donc tout était déjà parti. Et avec les JO, en plus, la plupart proposaient des locations jusqu'à mai 2024, ce qui m'intéressait pas. Et j'ai beaucoup galéré, vraiment beaucoup. Voilà.
Et vous, les autres Ouais, Marine.
Alors, j'ai énormément galéré. Maintenant, c'est derrière moi, mais c'est encore très traumatique. Maintenant, je suis en coloc, donc on est 3. Et en fait, on avait cherché pendant la période du Covid. Et en fait, avec le recul, c'était une activité à temps plein, en fait. On a fait peut-être quoi, 25 visites. Et il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, toujours de la concurrence.
25 ?
Ah, mais c'était énormissime, mais vraiment, ça a duré. C'était une épopée, le truc, en fait. Au début, on avait des attentes, de l'espoir, des idéaux. Et au fur et à mesure, on se disait, mais en fait, on veut juste...
Ouais, le premier qui vous dira oui.
Ouais, c'est exactement ce qui se passe. Hein. C'est, en fait, on n'a même pas choisi. Hein. C'est juste un appartement nous a dit oui, il se trouve qu'il est très bien. Mais, et d'ailleurs, on s'était dit, allez, c'est la visite de la dernière chance, sinon on renonce, quoi. Voilà.
Pour ma part, c'est pas très croustillant, parce que moi, je l'ai trouvé très vite, l'appartement, parce que c'était le propriétaire est dans ma famille. Mais je quand même, non, mais c'est...
Le privilégié.
Okay, j'ai en plus j'allais dire un truc bien après, je le dis pas. Non, je disais que c'est vrai que le problème, c'est qu'il y a, je pense qu'il y a quand même une régulation à faire sur le marché du logement à Paris. Un plafonnement des loyers, surtout pour les étudiants. Et pour cette étudiante étrangère, ça se trouve, elle avait des très bons garants, j'en sais rien, je sais pas d'où elle venait et tout, mais c'est quand même, y a quand même des règles, que ce soit les garants, c'est quand même une inégalité monstre. C'est tes parents, ils n'ont pas des thunes, t'as pas d'appart, quoi, alors que tu peux en avoir des thunes toi-même. Et en plus que les garants, s'ils sont pas français, t'as pas tes... Enfin, la France accueille des milliers d'étudiants étrangers, faudrait quand même les accueillir dans de bonnes conditions. Ouais. Mais bon, vu que je suis un privilégié, je parle plus de ça, voilà. Moi, j'ai mon appartement, il est bien, voilà, cher.
Ouais. Non, mais surtout que je vois avec le Crous, ils proposent des appartements, mais il y a tellement de demandes qu'en fait, il n'y a que les échelons les plus hauts qui en ont et encore. Quoi.
Les plus bas, du coup, les échelons.
Bah non, parce qu'en fait, plus t'es haut en échelon, échelon 7, c'est l'échelon... On voit que t'as pas été... Et toi, Mélina, ton logement ?
Moi, j'ai eu un petit peu de difficulté, effectivement, comme je viens de province, c'est que c'est assez difficile de booker, entre guillemets, des visites quand on est à 500 km de Paris. Et voilà, en fait, c'est vraiment le problème principal, le prix, claquer 1000 euros quand on est étudiant dans un loyer pour un 10 mètres carrés, c'est assez compliqué. Et en même temps, on a quand même envie d'investir pour avoir quelque chose de confortable, parce qu'on se dit que ce serait bénéfique pour nos études. Donc, y a tous ces compromis à faire. Voilà.
Ah oui, je comprends très bien. Moi, je ne dirais pas mon logement parce que... Donc, vous êtes toujours dans Cours d'honneur sur Radio Sorbonne, Radio Campus Paris. Et on parle de la vie de la Sorbonne et de l'actualité des étudiants.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste. Mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Notre invitée actu ce soir est la chefferie du Bureau des responsabilités et initiatives étudiantes. En clair, c'est elle votre phare dans la nuit en cette rentrée. Si vous débarquez à la Sorbonne, que vous êtes un peu noyé sous le flot d'informations et que vous avez envie d'étoffer votre vie étudiante, c'est elle qu'il faut aller voir. Sophia Richard, bonsoir.
Sophia Richard, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour les étudiants qui galèrent à trouver un appart ?
Eh bien, je travaille dans la... Alors moi, je m'occupe de tout ce qui est initiative étudiante, mais je travaille à la direction adjointe de la vie étudiante et de campus, qui est constituée du Bureau des responsabilités initiatives étudiantes, dont je suis la chef, mais aussi du service des bourses et du Bureau accueil handicap et du service du Bureau santé bien-être étudiant. Et au sein du service des bourses, il y a des personnes qui peuvent donner quelques clés. Alors malheureusement, effectivement, la question du logement, c'est quelque chose qui est même très difficile pour nous, dans lequel c'est très difficile pour nous d'accompagner les étudiants, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a énormément de demandes et malheureusement, pas beaucoup de logements disponibles. Mais les étudiantes et étudiants qui ont des questions sur le sujet peuvent quand même se diriger vers le service des bourses, qui est au 18 rue de la Sorbonne, en face de la Sorbonne Mère, pour poser leurs questions et peut-être avoir quelques pistes et quelques aiguillages pour trouver des solutions plus appropriées pour eux. Et également, ceux qui ont beaucoup de difficultés souvent à trouver des logements, c'est aussi les étudiants étrangers. Et on a un service qui a commencé à se mettre en place l'année dernière, qui s'appelle le Bureau des Free Movers, d'accueil des Free Movers, parce que comme il y a une direction des relations internationales, on a décidé de compléter avec un bureau d'accueil des Free Movers, donc tous les étudiants étrangers qui sont hors programme d'échange. Et donc pour les questions de logement, de titre de séjour, etc., mais notamment de logement, ils peuvent être accompagnés par des volontaires en service civique et une personne salariée en charge de la question.
Ouais, je sais que y a la Cité internationale qui existe, par exemple, pour les étudiants étrangers ou des choses comme ça, mais ouais, c'est compliqué. Et si vous deviez expliquer en fait à nos auditeurs, du coup, en quoi consiste votre rôle à la Sorbonne, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Alors, déjà, il y a plusieurs axes. Il y a déjà les initiatives étudiantes. Donc, tout étudiant peut créer une association, rejoindre une association, comme Radio Sorbonne Université, et peut aussi faire des demandes de financement pour justement financer des projets. Et donc, le rôle de mon service, c'est d'une part déjà d'accompagner à la création, au développement et au financement des associations étudiantes enregistrées en faculté des lettres à Sorbonne Université. Également l'organisation des événements de rentrée. Donc, il y en a certains qui sont déjà passés. Il y avait les forums de rentrée les deux dernières semaines. Ce samedi, il y a le rallye des Sorbonnales. Et des événements qui arrivent, notamment le 20 octobre, la soirée des Sorbonnales. La billetterie vient d'ouvrir aujourd'hui. Donc, si des personnes sont intéressées, le thème, c'est Hippie Chic. Et c'est une soirée organisée en partenariat avec cinq associations étudiantes de tout Sorbonne Université. Donc voilà, tout ce qui est un peu événementiel, valorisation de l'engagement étudiant, tout étudiant engagé dans une asso, une structure en tant que volontaire en service civique, réserviste, etc., peut valoriser son engagement en L3 ou en M2, il suffit de venir se renseigner, et tout ce qui est du coup remise de diplôme, donc l'organisation des remises de diplômes, et ouverture à la société. On a un événement très intéressant qu'on organise une fois par an. C'est Quartier Libre à l'université, où on ouvre en fait Sorbonne Université au quartier, notamment le campus de Clignancourt, pour faire découvrir aux collégiens et aux lycéens et aux familles aussi l'université, et montrer que ça peut être quand même accessible et qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrières et d'autocensure vis-à-vis des études supérieures, surtout universitaires.
D'accord. Et à quel point, du coup, pour vous, cette rentrée, elle est spéciale ou différente par rapport aux autres ?
Très bonne question. Je dirais que, alors, il y a eu la pandémie et l'année dernière, on a commencé petit à petit à avoir une rentrée plus en présentiel. Personnellement, j'ai remarqué qu'il y avait encore plus cette notion de présentiel, notamment aux événements de rentrée. On a eu beaucoup plus d'associations étudiantes qui ont participé. Le rallye a énormément d'inscrits par rapport à l'année dernière. On est à plus de 600 inscrits. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu l'année où le présentiel est encore plus présent. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, il y a eu le retour en présentiel un peu progressif. Et cette année, il y a un réel retour en présentiel. On sent que les étudiants viennent sur les campus plus. Notamment, on a une ligne téléphonique qui s'appelle le fil jaune, qui avait été créé pendant la période de la pandémie et qui permettait de répondre aux questions des étudiantes et étudiants qui ne pouvaient pas se déplacer sur les campus, et notamment quand il y a eu les confinements. Et cette ligne a progressivement été de moins en moins utilisée. Et cette année, c'est vrai qu'on a remarqué que les étudiants viennent beaucoup plus sur les kiosques, sur les campus pour poser leurs questions. D'ailleurs, à ce propos, on est présent à Clignancourt, à Malesherbes et à Michelet pour ceux qui ont des questions sur les questions inscription, vie étudiante, enfin tout ce qui a trait à la vie universitaire. Et c'est des emplois étudiants qui sont là pour répondre, donc il ne faut pas hésiter. Mais donc on a constaté qu'il y avait plus de venues en présentiel et moins d'appels sur le fil jaune. Donc ça montre que cette rentrée est quand même beaucoup plus éloignée de la pandémie que la précédente. Enfin, que celle de l'année.
C'est les fameux t-shirts jaunes, là, c'est ça, ceux qui peuvent nous aiguiller?
Pardon ?
C'est les t-shirts jaunes, c'est ça, ceux qui peuvent nous aiguiller.
Exactement. Ouais. Alors, ils portent des t-shirts jaunes, ils sont dans des kiosques, et il suffit de demander à n'importe quelle personne des accueils de Clignancourt, Malesherbes ou de l'Institut d'art et d'archéologie à Michelet, et ils vous orienteront, il n'y a pas de problème. Ils sont là de 9h à 17h, tous les jours de la semaine, juste pas entre 12h30 et 13h30, parce qu'ils vont manger aussi comme vous, mais ils sont là vraiment toute la semaine, faut pas hésiter, et vous pouvez poser des questions sur tous les sujets, parce que en fait, tout simplement, s'ils n'ont pas la réponse, ils viennent vers nous et on leur donne les informations. Donc voilà.
Et justement, si vous aviez 3 conseils à donner aux nouveaux étudiants qui arrivent à la Sorbonne, qu'est-ce que ce serait ?
Alors déjà, ne pas hésiter à poser des questions, à se diriger vers les services pour poser leurs questions. J'espère que les primo-arrivants ont eu l'occasion d'assister soit à la conférence de bienvenue, soit aux événements de rentrée. Mais si jamais ils ont des questions, il suffit qu'ils viennent nous voir et les poser. Mais vraiment, il faut oser poser des questions. C'est un vrai conseil parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, notamment les aides sociales, le fait de pouvoir créer une asso, de pouvoir valoriser son engagement, ou même tous les événements qu'on organise, toute l'aide qui existe et tous les services dont peuvent bénéficier chacune et chacun. Donc je pense que le premier conseil, c'est vraiment d'oser poser les questions, même directement au sein de leurs UFR, qui ont normalement toutes les infos aussi que je viens de donner. Et deuxième conseil, je dirais de ne pas hésiter à s'engager. S'engager, ça ne veut pas forcément dire aller dans une asso forcément à Sorbonne Université. Ça peut être faire un service civique, ça peut être s'engager en tant que bénévole. Ça peut être aussi trouver un job étudiant pour faire quelque chose à côté. Ça apportera toujours des compétences en plus et ça aidera à structurer son année universitaire. Donc voilà, c'est un petit conseil en plus. Et troisième conseil, eh ben, peut-être écouter l'émission Cours d'honneur un mercredi sur deux à 20h, parce que justement, je pense que c'est intéressant. Il y a des bons plans, autant scolaires que pas scolaires. Donc ça peut être très sympa.
Et alors justement, est-ce que...
RSU, si un jour vous voulez enregistrer quelque chose.
Est-ce que la vie étudiante, elle se résume au cours? Je veux dire, qu'est-ce qu'on manque et qu'est-ce qu'on rate si on ne va que en cours et qu'après on rentre chez soi? Si est-ce qu'on manque quelque chose? Est-ce que la vie étudiante, ça se résume seulement à un prof devant ses élèves?
Alors non. Après, je prêche mon service, donc je peux pas je vais pas vous dire oui, c'est que les cours. Non, en réalité, si on se résume qu'aux cours, je pense qu'on peut vite s'ennuyer, parce que les cours ne sont pas passionnants, bien au contraire, mais parce qu'on va pas pouvoir rencontrer plein d'autres personnes, avoir des échanges constructifs, découvrir de nouveaux horizons. Le fait de simplement, par exemple, s'engager dans une asso et se mettre sur un projet qui nous tient à cœur, dans un domaine qui nous tient à cœur, comme prenons l'exemple d'enregistrer une émission régulièrement, ça permet d'apporter aussi des compétences en plus et ça permet de découvrir de nouvelles choses, de faire connaissance avec d'autres personnes que les personnes qui sont en cours avec nous, de se changer les idées, ça apporte beaucoup de choses. Donc je dirais que la vie étudiante, elle peut être que complémentaire si... Elle peut être que complète, pardon, si on a le côté scolaire et le côté divertissement. Surtout que vraiment, à Sorbonne Université, on a plus de 150 associations et on a plein de façons de s'engager, plein de façons de faire des choses. Donc voilà, je pense que c'est important, ça permet de créer du lien social, surtout après une période de pandémie. Les primo-arrivants actuels, ils ont vécu une partie de leur lycée ou de leur collège en confinement. Les personnes qui finissent leurs études ont passé les débuts de leurs études en confinement. Donc sortons un peu de chez soi et des bibliothèques et faisons aussi autre chose à côté des études.
Ouais, je suis bien d'accord. Et finalement, la dernière question, la question signature de notre émission, qu'est-ce que ça représente la Sorbonne pour vous ?
Alors, la question que je vais te retourner, c'est qu'est-ce que tu entends par la Sorbonne ?
Ça peut être tout et n'importe quoi. Vous, qu'est-ce que vous entendez par la Sorbonne ?
Parce que maintenant, ça va faire peut-être 5 ans, 6 ans que je connais Sorbonne Université en général. Mais ça fait 2 ans et demi que je fréquente la Sorbonne, du coup. Mais pour moi, ça évoque... déjà, c'est quand même un lieu historique. Mais surtout, ça évoque avant tout un lieu de formation avec plein d'étudiants, plein d'activités sympas. C'est beau. Il y a plein de gens qui veulent rentrer, se prendre en photo et prendre des photos du lieu. Donc, c'est assez flatteur de travailler dans un lieu comme ça. Et pour moi, ça évoque formation, épanouissement, pas mal d'activités culturelles aussi. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir les agendas culturels. Il y a énormément d'offres pour les étudiants. Et voilà. Et puis, c'est mon premier job aussi. Donc ça évoque quand même beaucoup de choses.
Et vous, autour du plateau, vous participez du coup à des assos en dehors de Radio Sorbonne. Vous êtes épanouie ?
Alors, je n'ai pas participé à d'autres assos en dehors de Radio Sorbonne Université. Je suis fidèle au poste. Voilà, payez-moi. Allez, mais j'ai fait un peu tous les campus de rentrée, les forums de rentrée sur les différents campus. Et effectivement, ça c'est un conseil que je peux donner, il y a, je ne sais même pas combien d'associations existent à Sorbonne Université, même pas que à la fac de lettres, hein, mais dans toutes les autres facs. Je pense que quel que soit le centre d'intérêt, c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, mais quel que soit le centre d'intérêt qu'on a, que ce soit en sciences, en ingénierie, ou en radio, ou en littérature, en théâtre, quel que soit le centre d'intérêt, vous trouverez, ça c'est la force je pense de Sorbonne Université, c'est que vous allez trouver une association qui vous plaît. Donc si vous avez loupé les campus de rentrée, les forums de rentrée, regardez sur le site de la Sorbonne et c'est impossible qu'il n'y ait rien qui vous plaît, sinon vous voulez juste pas faire de l'associatif, mais c'est compréhensible. Il y a même du bénévolat, de l'humanitaire, il y a plein de choses.
Si je peux me permettre juste de compléter quelque chose, en dehors de l'associatif, il y a aussi autre chose qu'on peut faire pour participer à la vie de Sorbonne Université, et cette année en particulier est une année marquée par des élections. Il y a la vie démocratique. Pour ceux qui étaient au lycée encore l'année dernière, connaissent très bien le délégué de classe. À Sorbonne Université, il y a exactement le même système. Il y a des conseils où les étudiants qui sont élus peuvent participer pour défendre les droits des étudiants et justement faire remonter les avis des étudiants sur certains sujets. Il y a des conseils à l'échelle de la fac, des conseils à l'échelle de tout Sorbonne Université. Donc si vous voulez vous engager plus d'un point de vue politique, défendre les droits des étudiants, etc., vous pouvez aussi vous retourner sur ce domaine-là. J'ai oublié de le mentionner, mais c'est hyper important puisque cette année, il y a renouvellement de tous les élus étudiants. Donc, c'est peut-être important de le mentionner.
Merci. Vous êtes bien sur Cours d'honneur, sur Radio Campus Paris. Ils reviennent en force après 2 ans d'absence, le groupe de rock irlandais U2, avec son nouveau single Atomic City. Come
c'était le nouvel inédit Atomic City de YouTube. Il est 20h34 sur RSU.
Je crois que la poésie sont des rêves de bonne qualité.
Il n'y manque que ma petite touche perso.
C'est l'art de rêver et de faire rêver aussi.
Nous accueillons Mélina qui vous présente notre nouvelle chronique axée sur la poésie contemporaine, Poésie en Sorbonne. Mélina, aujourd'hui tu reçois L'Hémophile, un artiste émergent sur la scène rap et poétique.
Bonsoir à toutes et à tous. Oui, effectivement, ce soir nous accueillons Tom, nom de scène L'Hémophile, 24 ans, artiste, interprète, poète, rappeur et j'en passe, découvert sur les scènes ouvertes parisiennes de poésie et de slam. Il joue aujourd'hui dans des festivals tels que La Luna Festival ou le Lollapalooza et ce vendredi au Zénith de Paris pour le Copain Festival. L'Hémophile, bonsoir et bienvenue sur Cour d'honneur.
Merci.
Alors L'Hémophile, c'est d'abord un projet dont toi et Martin Vigne, ton compositeur, êtes à l'origine et qui regroupe aujourd'hui une dizaine de personnes. Comment est né ce projet et d'où vous vient le nom ?
Comme tu l'as très justement dit, déjà bonjour à tous, c'est la politesse avant tout. Comme tu l'as très bien dit, on a commencé sur des scènes ouvertes. En fait, moi j'ai débarqué à Paris et j'étais un peu seul, j'avais plus mes potes du lycée en post-bac et... Et je ne savais pas trop où aller, et j'avais mes textes. Et j'ai découvert des événements slam, poésie, des scènes ouvertes. Et donc j'y suis allé. Et dans une de ces scènes ouvertes, au Social Bar, un bar vers Lyon, Gare de Lyon, il y avait ce grand pianiste barbu qui faisait un peu peur, qui a oublié trois fois de m'appeler pour que je vienne dire un texte. Et finalement, le hasard des choses a fait qu'on s'est très bien entendu artistiquement et après amicalement. Et donc il m'a proposé de faire mes compositions. Et donc, j'écris les textes, lui fait les musiques, et c'était vraiment un duo au départ, c'est vraiment de cette amitié que c'est né. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de défendre cette musique, et que ça touche d'autres personnes, il y a plein de gens qui ont rejoint le projet. Et donc voilà, sur scène, maintenant, il y a une violoncelliste, une bassiste, des fois une danseuse, quand on peut, il y a un ingé son, des photographes, des vidéastes, bref, pas mal de monde. Je suis la personne qui parle souvent... voilà, qui prend la lumière, mais en vérité, il y a toute une équipe derrière, quoi, de gens motivés.
Et le nom, d'où il vient, le nom L'Hémophile, comment tu l'expliquerais ?
L'Hémophile, c'est que ma pratique de l'écriture, au départ, était vraiment quelque chose de thérapeutique. Donc, il y a cette image assez sombre du sang qui ne s'arrête pas de couler. Et puis, il y avait, en trois mots, L'Hémophile. Et voilà, il y a mon prénom et mon nom de famille qui sont cachés dedans. Voilà. À l'envers, ça fait mot, donc il y a déjà le mot, et puis il y a mon nom de famille aussi qui est caché dedans. Bref, voilà un peu les explications de pourquoi ce nom.
Tu dis que tu as commencé ton activité en récitant tes textes sur les scènes ouvertes du coup de poésie et de slam, les scènes ouvertes parisiennes. Est-ce que, en passant de ces scènes ouvertes aux salles de concert et aux scènes de grands festivals de musique, tu considères que la poésie fait toujours partie de ton art ou qu'elle a seulement été, entre guillemets, son point de départ ?
Non, pas du tout. C'est encore quelque chose qui m'habite énormément. Tout d'abord, je donne toujours la priorité au texte. C'est ce qui est le plus important dans ce qu'on me propose. Même Martin, qui compose toute la musique, en fait, part souvent de mes textes et les habille, les enrichit, leur donne de la puissance. Mais au départ, c'est vraiment le texte qui est essentiel. Donc, il y a évidemment tout l'héritage des poètes qui m'ont inspiré, des poétesses qui m'ont inspiré. Des rappeurs, des rappeuses. Et puis aussi, en vérité, j'essaye de toujours caler de la poésie maintenant, même dans les grands festivals ou dans les scènes qu'on a la chance de faire. Par exemple, on avait fait un concert là, au Hasard Ludique, et problème technique, la prod part pas. Je suis devant genre 400 personnes et il n'y a rien qui se passe, quoi. Et là, petite goutte de sueur sur le front. Et finalement, ce côté poésie m'a permis de rebondir. Et du coup, j'ai... En vrai, 400 personnes, c'est pas si grand comme ça. Et du coup, en fait, ça m'a permis de faire le texte a cappella. J'ai fait un poème de Robert Desnos qui s'appelle « Aux jeunesses ». Et le temps de finir ce sonnet, après, hop, la prod est revenue. C'était merveilleux. Ça a fait vraiment un moment en plus particulier, je pense, pour les gens. Voilà. Le problème technique est devenu un moment poétique.
Tu as toi-même créé depuis peu ta propre scène ouverte à l'Académie du Climat dans le 4e arrondissement de Paris. C'est une scène ouverte qui se concentre sur le partage de textes poétiques engagés autour de la question du climat. Quand est-ce que tu as ressenti le besoin de créer ta propre scène ouverte et pourquoi plus précisément sur la question du climat ?
En fait, c'est né de mon morceau Pétrole, qui est le dernier morceau qui est sorti en juin dernier. Et en fait, c'est le premier texte engagé que j'écris. Normalement, je fais des textes qui sont plutôt sur des questions intimes, sur la rupture, le deuil, l'amour fou, l'amitié hyper forte. Et sur l'écologie, enfin, j'avais pas envie trop de me risquer sur les questions engagées. Et en fait, via ce côté très intime de mes textes, est venu naturellement cet aspect. Puisque du coup, dans la chanson, je commence par ça, de dire que ma copine me dit « je ne voudrais jamais d'enfant ». En fait, de montrer que ça va nous toucher dans des choix très très personnels, alors qu'on a l'impression que c'est une question extrêmement politique et loin de nous. Et en vérité, c'est des enjeux qui nous dictent est-ce qu'on va prendre l'avion ou pas, est-ce qu'on va manger de la viande ou pas, est-ce qu'on veut des enfants ou pas. Bref, des choix terriblement personnels. Et si moi, ça m'a permis d'évacuer toute cette une forme d'anxiété, de tous ces questionnements, je me suis dit, il y a forcément des gens qui ont envie de prendre la parole. Moi, les scènes ouvertes m'avaient fait beaucoup de bien à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas créer autour de ce morceau, de pas juste avoir une musique comme ça, mais de créer un peu un mouvement autour de ça. En tout cas, que les gens puissent s'exprimer aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a proposé cette scène ouverte. Il s'avère que ça a bien plu. Et du coup, là, on a des propositions pour continuer ce genre d'événement. On sera de nouveau le 26 octobre là, à l'Académie du Climat. On est à l'ENS samedi prochain, le 14. J'ai dit les choses un peu dans le sens inverse. Mais voilà, et puis il y a des facultés là qui nous ont rapprochés un peu pour créer des scènes ouvertes autour de ça.
Et bah, merci beaucoup pour cette réponse. Et on écoute tout de suite un extrait de Pétrole sur Cour d'honneur.
J'ai vu le feu, j'ai vu la fin, tout ce qu'on avait construit partir en fumée. Dans notre belle maison, je n'ai rien pu sauver à part quelques cicatrices de grands brûlés. Putain, j'étouffe, les bras sont recouverts, le ciel déroule, la foudre sévit, les tours s'écroulent, le sol a tremblé comme tremble mon amour. J'ai vu la famine, ronger des familles, un âme abattre le dernier animal, des places s'entretuer, un coup de canine et se bouffer la chair, c'est l'instinct cannibale. Je me suis enfui, je n'avais pas la force de voir toutes ces horreurs. Depuis, j'attends d'être à jamais emporté par le courant ou d'être enterré par les sables mouvants.
Tu as choisi de nous réciter un de tes poèmes, S'endormir dans le métro. C'est son titre. Je te laisse la parole.
Juste avant, je voulais préciser, l'extrait qu'on a entendu, c'est tiré d'une live session. En fait, le son est enregistré en live dans les sables mouvants du Mont-Saint-Michel, que je vous invite à aller regarder. Voilà, ça explique aussi pourquoi je suis essoufflé et tout quand je le chante. Donc je vous conseille d'aller voir les images, ça vaut le coup, je pense, pour voir aussi ça. Bref, ça, du coup, le texte que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un texte que je ne fais pas normalement sur scène. Mais s'il y a un nouveau problème technique, peut-être que je le ferai. Ça s'appelle S'endormir dans le métro. J'aime bien m'endormir dans le métro, bercé par la valse régulière des wagons. Assis sur un strapontin, une main en guise d'oreiller pour que ma tête cogne moins contre la vitre toute rayée. Le son pas trop fort dans mon casque audio m'isole quelques instants de tous ces gens odieux qui parlent fort au téléphone ou qui râlent, pressés d'arriver en retard au boulot. Paris est une grande dame mangeuse d'hommes. Eux, ils courent dans tous les sens pour ne pas qu'elle les dévore. Les plus faibles finiront en bouillie, écrasés par un train ou piétinés par des passants sans empathie. L'ogresse a donné naissance à de petits monstres. Mais quand je m'endors dans le métro, ils prennent soin de moi. Ils adoucissent leur voix comme pour me chanter une berceuse. Et c'est d'un geste tendre qui me le réveille avant le terminus. Peut-être me regardaient-ils tout le long de mon profond sommeil, comme des parents un peu gaga qui d'un rien s'émerveillent. Une fois, alors que ses papas et mamans adoptifs n'osaient pas me réveiller, j'ai fait des allers-retours sur la ligne 13 dans la jeune matinée. Même les pickpockets m'ont laissé me reposer. C'était l'hiver, et j'ai finalement été levé à cause du froid. Je tremblais. Mes muscles se contractaient dans de petites convulsions, comme s'ils voulaient réduire, se faire tout petit pour rentrer dans le creux de mes os. Pourtant, je n'avais pas oublié ma veste à la soirée et j'étais resté à l'intérieur de cette chambre mobile. Quand je suis finalement sorti du métro, dans la rue, j'ai vu un couple qui dormait sur le sol gris et gelé. Ils ne tremblaient plus. Je suis passé à côté d'eux, tout près. Je n'ai même pas mis la main dans la poche de mon jean pour au moins faire semblant de chercher une pièce de monnaie. J'ai pressé le pas, ayant hâte de rentrer au chaud, chez moi. Oui, Paris m'a eu.
Merci infiniment pour ce partage. Oui, applaudissons tous.
Merci.
Ça mérite. Merci infiniment, Lémophile, pour ta présence, pour tes mots, pour tes réponses à nos questions. On te retrouve donc en concert ce vendredi 6 octobre au Copain Festival, au Zénith de Paris, dès la semaine prochaine au Festival Atmosphère, le 12 octobre à Courbevoie, le 9 novembre aussi au 3 Baudet, dans le 18e, à Paris toujours. De toute façon, toutes les dates sont sur ton Instagram, Lémophile, L-E-M-O-F-I-L. Et entre-temps, on te souhaite tout le meilleur et du succès dans tout ce que tu entreprends et à bientôt.
Merci pour l'accueil.
Merci beaucoup. Mélina, on te retrouve dans la prochaine émission et toute l'année pour nous parler de poésie contemporaine dans Cours d'honneur. Et c'est l'heure de la chronique des brouilles, la pastille info au service de RSU.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table.
Et aujourd'hui, Abel, tu nous parles des bons plans étudiants.
Ah, être étudiant parisien. Flâner dans les rues du quartier latin. Manger au Luxembourg, étudier rue Victor Cousin, comme Mercier, Marie Curie, Sartre. Et surtout, profiter de cette période unique de la vie où l'on peut se consacrer à ses études sans se préoccuper de l'avenir, ni même de la fin du mois. Oui, bah ça, c'était avant. C'était avant la fin de l'abondance, alors rentre vite des cours, tu as ton service de nuit au McDo qui commence. Mais nous, à Cours d'honneur, on est là pour vous aider. Et des services sont mis en place pour vous. Alors laissez-moi vous en parler. Depuis février de cette année, Emmaüs a ouvert une boutique solidaire pour les étudiants. Livres, vêtements, nourriture et beaucoup d'autres choses. La boutique accueille les étudiants au 46 allée Paris-Ivry dans le 13e. Il vous suffit de vous munir de votre carte étudiant ou de votre certificat de scolarité et un prix avantageux vous sera fait pour vos achats. Le lieu nommé Emmaüs Campus est aussi ouvert aux dons, alors n'hésitez pas à y déposer des vêtements ou autres, cela profitera aux plus précaires de vos camarades. L'initiative est née d'une collaboration entre l'association Emmaüs et la ville de Paris, comme l'explique Corentin Le Tessier, adjoint à la mairie de Paris chargé de l'économie sociale et solidaire, je cite. C'est un projet qui a du sens quand un étudiant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Et il ajoute « Ce nouveau lieu doit permettre aux étudiants qui disposent d'un faible pouvoir d'achat de se vêtir et de s'équiper. »
C'est très chouette, Abel. Et tu aurais aussi des bons plans pour sortir un peu de Paris pour pas cher ?
Mais ne t'inquiète pas, Lodine, j'ai ce qu'il te faut. Si comme Lodine, vous avez soif d'aventure et que surtout vous en avez marre de vos 9 mètres carrés, des 9 mètres carrés de votre chambre de bonne ou de votre coloc à l'hygiène douteuse et donc qu'il vous faut une pause au grand air le temps d'un week-end ou d'un après-midi, écoutez ça. Le site Erasmus Place, une organisation destinée aux jeunes de 12 à 26 ans en France, organise des week-ends pas chers. 30 euros pour une journée entre Honfleur et Étretat, avec les activités incluses dans le prix. 55 pour le Mont-Saint-Michel et 130 pour 3 jours à Amsterdam. À ce prix-là, tu vas pouvoir en visiter des coffee shops. Pour ceux qui ont envie de se faire des voyages en groupe, rien de mieux. De plus, sur leur site internet, vous pouvez retrouver, pour nos auditeurs fêtards, des soirées organisées dans la capitale pour les étudiants. Il y en a souvent une tous les jeudis au Café Oz et d'autres à thème comme Kiss My Erasmus, ça donne envie. Et pour les étudiants Erasmus qui nous écoutent, il y a des tarifs spéciaux pour vous, ne vous inquiétez pas. Et pour finir, notre dernier bon plan, c'est la grosse soirée RSU qui aura lieu au mois de novembre. Donc si tu veux venir t'amuser avec tes chroniqueurs préférés de ton émission préférée, reste à l'affût sur nos réseaux sociaux.
Merci Abel pour les soirées, tu peux compter sur nous.
Je savais.
Et pour visiter Paris en musique, je vous conseille une artiste encore trop peu connue du grand public. Elle est humble, elle est sensible, elle a beaucoup de charme, elle s'appelle Clio et nous donne rendez-vous dans le musée le plus célèbre de la capitale.
je m'ennuie. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous ennuyez aussi, mais vous n'avez qu'à dire oui. Le ciel est gris, vos yeux aussi, mais le Louvre est ouvert, lui. Bah oui, c'est vendredi, dépêchez-vous. Pas compliqué, se mettre au sec depuis chez vous. Y'aura plus qu'à nous mettre au sec, je l'avoue. J'en ai rêvé souvent, j'y ai pensé beaucoup. Un rendez-vous par mauvais temps, nous perd. Sous la grande odalisque et son dos si long, si nu, il faudra que je vous dise ce qu'on pourrait se dire tu sans hésiter. Tu diras je suis pour et puis intimidé. On fera des détours autour de cette intimité. Silence ses yeux, est-ce qu'il pense à nous deux?
Et maintenant, c'est le pavé de culture. Les savoirs inutiles donc complètement indispensables de Thomas.
Shut up!
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Ils boudent parce qu'il y a des tas de journalistes qui veulent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Chaque mois, tu nous racontes une anecdote méconnue de l'histoire de l'université. Aujourd'hui, tu nous expliques le sens des fresques qui se trouvent dans chaque amphi de la Sorbonne.
Ouais, alors toutes les fresques là, peut-être pas aujourd'hui. Hein.
C'est cela, oui.
Oui, non, parce que ça risque d'être un peu long, donc je vais commencer par le plus emblématique des amphis pour tous les étudiants de la Sorbonne. Je parle bien sûr de l'amphi Richelieu. Sous le jour poussiéreux que laisse filtrer la coupole, devant la fresque fade d'Apollon et ses muses, les fiers enseignants de la Sorbonne ont fait surgir les plus grands chefs-d'œuvre de la pensée humaine, car oui, c'est une fresque à peine discernable, délaissée, à peine admirée par les étudiants désabusés, qui a déjà porté son regard de longues minutes sur cette peinture. Apollon et les muses au sommet du Parnasse, un titre qui nous plonge dans un abîme de douceur et de gaieté. Le Parnasse, célèbre montagne de Phocide, où le dieu grec des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière, faisait son séjour avec les muses, la fontaine Castalie qui sortait de ses flancs communiquait au chantre l'inspiration poétique. Ce fut sur la cime la plus haute de cette montagne à double sommet que Deucalion et Pyrrha se retirèrent lors du cataclysme qui submergea la Grèce. Dans cette composition, à la facture typique de la fin du XIXe siècle, c'est une fresque dans le pur style néo-renaissance, inspirée des primitifs italiens du Cinquecento ou encore de l'école de Fontainebleau. L'auteur représente Apollon à demi-nu, massivement assis,
entouré de ses 9 muses, chacune portant une couleur et un objet symbolisant leur domaine d'inspiration. À ses pieds se tiennent donc Clio, qui tient le globe terrestre pour l'histoire, Polymnie, muse de la rhétorique dont la main droite est en action comme pour haranguer, puis de gauche à droite on trouve la muse qui préside la musique, Euterpe et sa flûte, Erato, patronne de la poésie lyrique, tient une flèche dorée, Calliopée, le front ceint d'une couronne d'or ornée de guirlandes, elle tient dans une main une trompette et de l'autre le texte d'un poème épique, Melpomène, muse du chant, au maintien grave et sérieux, la céleste Uranie, muse de l'astronomie et vêtue d'une robe de couleur azur. Thalie, l'abondante muse de la comédie, tient, elle, un masque à la main. Et face à eux se trouve Terpsichore. Bien sûr, elle porte une lyre en tant que muse de la danse. On dirait presque d'ailleurs qu'elle est en train de leur donner une leçon. Avec sa main en l'air, comme si elle s'apprêtait à leur jeter un sort.
Non, stop, stop, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa, et pas Leviosa.
Alors, cette fresque bucolique d'inspiration mythologique orne l'Amphi Richelieu depuis le début des années 1900. Elle a été peinte par Pascal Dagnon Bouveret, illustre inconnu de nos jours. Il faut savoir qu'il est rentré aux Beaux-Arts en 1869, qu'il a remporté quelques prix, qu'il a occupé un atelier à Neuilly. Il s'est consacré un temps aux œuvres d'inspiration naturaliste. Il a connu un petit succès en 1884. Il a souvent voyagé en Bretagne, s'est même retrouvé récompensé à l'exposition universelle de 1889. Et c'est en 1903 qu'il réalise le décor de l'Amphi Richelieu. On peut d'ailleurs retrouver d'autres de ses œuvres, notamment à l'Hôtel de Ville de Paris ou bien au musée Georges Garret de Vesoul. Ça ne s'invente pas puisque c'est là-bas qu'il est mort.
T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère.
Merci Thomas, grâce à toi, on se couchera un peu moins bête ce soir.
Merci.
Et il est 20h58 sur Radio Campus Paris.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Rentrée rime aussi avec retour des corvées. La vaisselle traîne, la poussière s'accumule et il faut aussi penser au linge sale. Cilia nous emmène avec elle à la laverie de sa résidence Crous.
Si vous vous souvenez bien, il y a 2 semaines, on a parlé d'un entraînement de handball. Je vous avais emmené avec moi au gymnase. Assidue que je suis retournée à l'entraînement hier soir. Et donc j'ai transpiré, j'ai beaucoup beaucoup transpiré. Et maintenant, il faut aller faire la lessive. Ça nous permettra donc d'aller découvrir cet endroit très mystérieux qui est la laverie de la résidence Crous. Première étape, faire son sac, prendre un immense cabas, comme ceci, en plastique, et foutre tous les habits, les draps, les serviettes de bain, tout ce qui est sale, évidemment le survêtement pour pouvoir retourner à l'entraînement lundi prochain. Et ensuite, on va descendre à la laverie. C'est parti.
Je m'appelle Margot, je suis dans la laverie Crous de la cité U Paul Appel. Il y a de nombreuses machines à laver et sèche-linge, avec des bornes qui ne fonctionnent malheureusement pas toujours. Il y a plusieurs tables à repasser et il y a des robinets à disposition afin de rincer des objets si on en a besoin. Il fait toujours très chaud dans celle-là, mais on peut toujours laisser les portes ouvertes, donc il n'y a pas de problème. Il y a aussi une poubelle, un radiateur qui va sans doute jamais être utilisé vu qu'il fait déjà plus de 30 degrés dans la salle. Et il y a aussi toujours malheureusement des machines qui ne fonctionnent pas, mais on ne se plaint pas, ça doit être moins cher que dans une autre laverie. 4€ pour une machine à laver et 1,50€ pour les sèches-linges.
D'accord. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait? Donc on ramène son sac et ensuite on met tous nos habits en gros dans le tambour de la machine à laver. Et ensuite comment on peut lancer la machine?
Alors il faut d'abord payer avec une carte, soit une carte Easily, soit une carte bancaire classique.
Donc on repère le numéro de notre machine à laver.
C'est ça.
Ensuite on l'inscrit sur la borne, on paye la somme modique ou pas de 4€.
Oui.
On se fait potentiellement arnaquer parce qu'il y a des prélèvements qui se font en double.
C'est ça, c'est ça.
Et ensuite on met nos habits et il y a aussi les sèches-linges qui prennent combien de temps environ?
Ça peut aller jusqu'à 75 minutes.
Ouais.
À 50 minutes et quelques.
Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là?
Alors soit on révise vraiment dans la salle, soit on retourne dans notre chambre qui est juste à 1 minute à pied pour se reposer et faire autre chose. Bah, par exemple, moi je fais du ukulélé, donc j'en profite pour faire du ukulélé dans ma chambre, pas trop fort parce qu'on est quand même en résidence avec d'autres personnes. Beaucoup Mélanie Martinez et des morceaux un peu alternatifs.
Ok, et ben on va aller écouter ça. On va redescendre chercher la lessive qui devrait être finie depuis le temps. Ça fait déjà une heure pour les laver, une autre heure pour les sécher, ça devrait être bon.
Là, je dois vider du coup la machine du sèche-linge. Les vêtements sont assez chauds, donc faut faire attention de ne pas se brûler. Ils seront pas trop froissés, pas trop besoin de les repasser. Enfin, juste quelques vêtements, les chemises ou les t-shirts, mais sinon le reste ça va.
Et voilà, mission accomplie. On a du linge plus blanc que blanc, des draps qui sentent très bons. L'idéal pour pouvoir faire une bonne nuit de sommeil et retourner bien en forme demain matin en cours.
Merci Cilia, ça me fait penser que moi aussi j'ai des machines à faire. Et vous, autour de la table, où est-ce que vous allez laver votre linge ?
Moi, je vais laver mon linge chez moi, mais je voulais revenir, et je pense que l'équipe voulait revenir sur le superbe pavé de culture de la part du régisseur.
Alors déjà,
alors déjà, depuis quand la régie fait des chroniques ? Et puis ensuite, cours d'histoire de l'art super, c'est quand le TD ?
Ah, bah, quand tu veux, je te fais la deuxième fresque dans deux semaines.
Okay.
Non, Marine, toi, t'avais déjà fait gaffe
ou... Non, je plaisante.
À la fresque.
Extrêmement détaillé. Et d'ailleurs, on était sans mots. Tant de culture comme ça, condensé en quelques
minutes. Les neuf muses. Franchement, vous auriez pu en citer combien Bon, j'avoue que j'en connais ces gens.
Il faut se reconvertir, là. Il faut quitter la régie. Hein.
Très bien. Bah, je vais m'y atteler. Je vais passer la grègue.
Bah, je sais pas, après...
C'est vrai que dire après cette fresque, en même temps...
Allez sans mots, ça l'a laissé sans mots.
J'étais éblouie par...
Par contre, pour passer du coq à l'âne, la carte postale sur la laverie...
Ah, revenons à la laverie.
Vraiment donné l'impression que c'était assez dangereux, en fait, de laver son linge.
La brûlure de vêtements.
Oui, la brûlure de
vêtements. On n'y pense pas assez.
Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, ça.
Alors après, le vrai truc, c'est que moi, je ne fais pas sécher mes vêtements dans le sèche-linge automatique. Je les ramène chez moi humides et j'ai acheté une corde que je tends entre ma fenêtre et ma porte d'entrée et je suspends mes vêtements là-dessus. Enfin bref, c'est toute une technique. Je vous raconterai ça dans une carte postale à l'occasion.
Bah écoutez, les autres ne lavent pas leur linge, visiblement.
Alors si, moi, je lave mon linge, mais c'est pas aussi technique que comme c'était décrit là. Je pensais pas que c'était aussi technique. Moi, je mets juste dans la machine et...
Bon, ouais, c'est à la main dans la Seine, comme du temps des anciens.
Je vais la voir.
Ouais, elle met toutes les couleurs et tout, elle s'en fout, les couleurs, le blanc.
Oui, en plus.
Sans assouplissant et tout, craint des gains.
Si, l'assouplissant parce que ça sent bon.
Mais je commence vraiment à considérer le fait de laver mon linge dans la baignoire. Parce que 4 euros.
Madame a une baignoire.
Ouais, déjà.
Après, c'est moi le privilégié, excusez-moi.
C'est une toute petite baignoire.
Okay. Oui, le jacuzzi, oui, madame, oui.
Non, mais 4 euros pour un lavage, tout ça.
Alors, il faut conclure cette émission, Lodine.
Lodine n'a absolument pas envie de conclure.
Lodine n'a pas. Elle est bien. Elle est là, elle est dans le studio, elle se demande ce qui se passe. Nous aussi.
Je pensais que tu devais me lancer le tapis.
Alors là, c'est les insiders de l'émission.
Et c'est la fin de Cours d'honneur, saison 3, épisode 2. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi. Merci à toute l'équipe. Abel, Thomas, Marine, Louane, Mélina et Cilia aussi. Et merci au service culturel pour son soutien. On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, restez curieux, soyez fous et n'oubliez pas, tout est possible. Ciao!
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié? Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter?
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.